On est tous préoccupés par la santé de nos jeunes. Et ça fait aucun doute dans mon esprit. Moi, je suis un papa d'ado. Je sais qu'il y a plusieurs de nos auditeurs également qui sont parents. D'ailleurs, il y a chaud 418-971-1021. Et présentement, il se passe beaucoup de choses dans la vie de nos jeunes. Plusieurs éléments externes qui peuvent devenir négatifs pour leur santé. On pense notamment présentement au temps d'écran, au temps d'utilisation des écrans chez nos jeunes et à cette guerre avec les médias sociaux. D'ailleurs, Pascal nous faisait un excellent dossier hier à cet effet. Donc, où on se dit que peut-être bien que le temps d'écran trop élevé fait en sorte que nos jeunes sont sédentaires. Également, on a parlé pas plus tard que la semaine dernière de ces problèmes avec le vapotage qui est en forte hausse chez nos jeunes de moins de 18 ans. C'est 22 % de jeunes qui consomment la vapoteuse. C'est une augmentation de 22 % devrais-je dire. Et là, bien, depuis la mort de Jérémy, 15 ans, qui était atteint, qui vivait avec le trouble, un trouble d'hyperactivité et qui était médicamenté. Et on a beaucoup parlé des boissons énergisantes parce que Jérémy est décédé de problèmes cardiaques en raison, justement, des boissons énergisantes qu'il avait consommées en lien avec sa médication.
Puis ça, on ignorait l'impact que ça pouvait avoir.
Vraiment?
Hey, écoute, là, c'est une mort. C'est pas rien.
Exactement.
Là. Quelqu'un qui est décédé quand on n'avait pas toute l'information à ce niveau-là. Puis on comprend, la recherche est encore là-dedans. On se rappelle, dans le temps de Jeff Desbarres, là, il vendait des vodka Red Bull. À un moment donné, ils ont vendu de la vodka avec une canette à côté. On sait très bien c'était pourquoi.
Mais
il y avait eu des cas de décès à ce niveau-là. Et là, maintenant, on en apprend plus sur le TDAH. On veut jouer un rôle influent, je pense, auprès de la jeunesse.
Ah oui, d'ailleurs, il y a une auditeur qui nous écrit justement, « Oui, c'est une priorité immédiate de réglementer les boissons énergisantes, car comme me disait ma cardiologue, les dommages peuvent être faits à très long terme. »
Pis c'est cool, c'est rendu cool de boire ça parce qu'il y a des jeunes qui boivent de moins en moins d'alcool, qui se retournent vers des alternatives, puis la boisson énergisante est rentrée à côté.
Les canettes sont tellement belles, sont attrayantes. Tu rentres dans le dépanneur, moi tu prends une petite bouteille d'eau ou cette belle canette-là qui m'appelle. Hein? Le choix est quand même assez facile pour les jeunes. Aujourd'hui, je suis très content de voir qu'il y a une grande offensive qui se fait justement pour mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il interdise la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. On a parlé, la LHJMQ fait de la pression. Un gars comme Pierre Lavoie, qui est très connu dans le milieu scolaire aussi, met de la pression. Et il y a le réseau du sport étudiant du Québec qui embarque dans la danse. Et on a au bout du fil Gustave Roel, chef de la direction pour le RSEQ. Monsieur Roel, merci pour votre présence aujourd'hui à l'émission d'En Jase.
C'est très important et merci de votre invitation.
Ça fait plaisir. Monsieur Roel, sans surprise, vous avez décidé d'embarquer dans la danse pour l'interdiction. Est-ce que vous constatez que dans le sport étudiant au Québec, c'est un problème que beaucoup de jeunes, avant leur performance sportive, qui consomment ce type de boisson?
Écoutez, c'est une tendance qu'on voit à la croissance de cette consommation-là. Et comme vous le disiez tantôt aussi, ce qu'on voit, c'est un déplacement certain de l'alcool vers les boissons énergisantes. Et donc, dans cette optique-là, pour nous, c'était important de joindre cette mobilisation-là, qui est une première en soi, là, en 25 ans dans le réseau du sport étudiant, où l'ensemble du milieu de l'éducation, peu importe les bannières, se mettent ensemble pour protéger et assurer la sécurité de l'ensemble des jeunes au Québec. C'est une première et on trouvait ça important de venir s'associer parce qu'effectivement, c'est une préoccupation qu'on entend sur le terrain. Vous savez, le réseau, c'est tout près de 343 000 étudiantes et étudiants qui font de l'activité physique et pour lequel, pour nous, la santé est quelque chose de primordial. Pour lequel les entraîneurs nous parlent de plus en plus d'utilisation de produits comme celui-là.
Qu'est-ce que vous faites comme moyen de prévention à l'heure actuelle, justement, parce que l'on demande l'interdiction, mais présentement, comment qu'on prévient, justement, la consommation abusive de ces boissons-là chez nos jeunes athlètes?
Écoutez, je suis content que vous posiez la question parce que le réseau se positionne beaucoup dans cette mobilisation-là, surtout sur, la prévention, justement, parce que vous savez comme moi que l'alcool, la cigarette, ce n'est pas permis pour des mineurs et pourtant on le sait très bien là, qu'il y en a qui consomment. Donc, c'est comment on est capable de éveiller au niveau de leur regard critique. C'est un peu les campagnes qu'on a déjà fait sur le tabac, par exemple. Donc, quand on dit à un adolescent de ne pas faire quelque chose, on risque plutôt des fois de le pousser vers l'action. C'est beaucoup plus de lui permettre d'avoir un regard critique lorsqu'il n'y aura pas d'adulte responsable avec lui. C'est un peu là-dedans qu'on est, d'une part. Et deuxièmement, au niveau de la formation en éthique que les entraîneurs du réseau reçoivent, il y a un élément sur lequel on demande aux entraîneurs de se questionner sur leur comportement et on prend l'exemple d'une boisson énergisante. Lorsque l'entraîneur, par exemple, prend une boisson énergisante, quel est le message qu'il pense à ses étudiants? Quelle cohérence peut-il avoir lorsqu'il va parler de santé par la suite? Donc, on essaie de les sensibiliser dans ce sens-là.
Est-ce qu'on est conscient que la sensibilisation, des fois, c'est plate pour les jeunes? Ils comprennent pas, ça leur tente pas de se faire abrouer les oreilles, mais que si ça passe, par exemple, à l'intérieur des cours, à la maison, d'expliquer que ça a des effets tragiques, soit la mort, et qu'on va plus loin, c'est traumatisant, mais ça fait une onde de choc, là, veut pas, chez les jeunes. On est-tu conscient de ça?
Tout à fait. Puis je vous dirais que nous, la voix qu'on a directement vers le jeune et qui représente 86 % de l'influence que le jeune veut faire, c'est l'entraîneur. Alors, un entraîneur qui a un comportement, encore une fois, d'utilisation de boissons énergisantes, envoie un message et cautionne auprès du jeune que c'est normal de le faire. Vous savez, la boisson énergisante en soi, au-delà des effets là, que vous avez mentionnés, est un début d'un comportement dopant. Alors, si je prends une substance pour améliorer ma performance, quelle sera la suite? Mm-hmm. Cet élément-là, pour nous préoccupe et ça fait longtemps qu'on est déjà sur la place publique par rapport à cet élément-là. Alors, quand que l'entraîneur prend conscience de son impact, il y a beaucoup plus de chances d'avoir de retours positifs auprès des jeunes. Puis j'enlève pas l'impact des parents, là. Encore une fois, c'est important que tout le monde puisse intervenir. Mais souvent, à l'adolescence, c'est beaucoup plus le cercle dans lequel ils se retrouvent et la personne la plus significative au quotidien. C'est l'entraîneur qui s'occupe de ce jeune-là.
Toi, Jeff, parce que Jeff est entraîneur, ouais. OK. Est-ce que tu penses que ce serait plus facile ou assez facile d'avoir un impact auprès des jeunes avec les boissons énergisantes?
Ah, bien sûr. Oui. Honnêtement, moi, j'en parle déjà à mes jeunes hockeyeurs que, tu sais, pour moi, c'est pas une façon d'améliorer la performance. Tu mets beaucoup plus à risque, justement, d'avoir des palpitations cardiaques ou, à un moment donné, t'es d'avoir le gros down, parce que toi, on s'entend, t'as un hop, mais pendant ta pratique d'activité physique, que t'ailles ce fameux down, puis là, ben ça devient servicieux. Tu vas te dire, ah, ben là, faut que j'en prenne un peu plus. Fait que c'est là, M. Roel, que je vous rejoins vraiment avec le fait que c'est un premier pas vers des produits dopants, là.
Tout à fait. Puis écoutez, dans une cour d'école, si on voit un jeune prendre de l'alcool, on va s'offusquer, on va agir.
Oui.
S'il fume, on va se questionner. Et s'il prend une boisson énergisante, mais ça devient une banalité. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut agir.
Hey, justement, cet effet-là, je lisais Pierre Lavoie sur ses médias sociaux qui mentionnait qu'on était assurément rendu à des états généraux sur notre jeunesse en expliquant les boissons énergisantes, les vapoteuses qui sont en hausse et également le temps d'écran. Êtes-vous d'accord avec sa prise de position? Moi, ça me parle énormément.
C'est-à-dire que il faut garder en tête que la santé de nos jeunes, c'est pas une ligne droite. Hein? C'est un ensemble d'intervenants qui peuvent y contribuer de toutes sortes. Certains s'occupent du temps libre, d'autres s'occupent du temps organisé. Il faut que l'ensemble de ces gens-là se questionnent comment la jeunesse peut sortir avec une santé meilleure, alors que c'est un investissement à long terme. Dans ce sens-là, c'est clair qu'on souhaite que la collaboration, et c'est ça qu'on voit présentement, encore une fois, comme je disais tantôt, que c'est une première, que le monde de l'éducation se mobilise, peu importe les bannières, pour la raison principale, la santé de nos jeunes.
Dernière petite question pour vous, M. Roel, puis ça, c'est un petit débat personnel que j'ai. La sélection des jeunes dans le sport étudiant, je lisais dans la presse hier qu'il y a une école à Trois-Rivières qui bannit ça, qui trouve des entraîneurs à même les secondaires 5, secondaires 4, puis qui permet à tous les jeunes de pratiquer un sport. On en est où là-dessus au niveau du réseau du sport étudiant du Québec?
Dans le fond, les entraîneurs, c'est plus de 22 000 entraîneurs là, qui sont directement liés par le réseau, sont embauchés par des directions d'école. Hein. Donc, à la base, c'est une direction qui va donner une orientation, d'une part. Deuxièmement, oui, des jeunes de secondaire 4, secondaire 5, ça peut être une aide additionnelle, mais légalement, il y a une question aussi d'avoir des 18 ans au niveau des règles de sécurité. Nous, ce qu'on préconise, encore une fois, c'est le plus de participants possible. Les choix sont faits vraiment par les établissements. Vous savez, le réseau, là, c'est un jeune sur cinq au Québec qui participe déjà. dont 48 % c'est des jeunes filles et 52 % c'est des garçons.
D'accord, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'essayer de faire plus, justement, pour pas qu'il y ait des petites filles de 12 ans, par exemple, dans un article qu'on a lu, qui disent « ben moi, je suis trop poche pour jouer au soccer, je vais arrêter de jouer ».
Tout à fait. C'est pas l'orientation que le réseau souhaite. Bien au contraire, on souhaite augmenter beaucoup plus la participation. C'est pour ça que souvent, je vous dirais, lorsqu'on pense au réseau, on pense au réseau de compétition, ce qui représente à peu près 10 % de notre volume d'action. La grande majorité, c'est de l'initiation, c'est vraiment au niveau de l'activité physique. Donc, on est dans ce sens-là. Le plus de participants possible, c'est ce qu'on souhaite.
Parfait. Monsieur Roel, merci beaucoup pour votre temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Au plaisir de se reparler.
Merci, c'était important.
Merci, au revoir.
C'est drôle parce que le dernier questionnement que tu t'es posé là, dans l'entrevue en disant comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les jeunes ne se trouvent pas trop poches pour un sport, moi, je l'ai vécu jeune. Mm-hmm. C'était avec une famille qui était active, oui, mais pas nécessairement très active.
Wow, oui.
Puis en étant la dernière, 8 ans de différence avec ma plus vieille, à un moment donné, j'ai l'impression que mes parents ils ont comme abdiqué sur certaines choses.
Mm-hmm.
Comme ça, on peut avoir des avantages d'avoir eu des portes défoncées.
Ben, oui.
Mais quand le rugby est arrivé à mon école secondaire, c'était un tout nouveau sport qui commençait à s'implanter. Tout le monde était à zéro.
Ouais.
Fait que personne ne se sentait en compétition.
Fait que ça t'a permis de...
Et là, il y a eu tellement d'inscriptions,
ben
Jeff,
oui.
De jeunes qui ne trouvaient pas un peu leur sport ou leur équipe parce qu'il y en avait qui avaient tellement performé au soccer, par exemple, dans les années précédentes, qui là se retrouvaient à zéro. Tu jasais récemment d'avoir une diversité des sports aussi,
oui,
des fois dans les
deux,
cours d'éducation physique.
Deux, trois sports qu'il faut qu'ils soient pratiqués par
aussi.
Le jeune. On parlait de ça avec les blessures au croisé antérieur.
Exact. Puis au cours d'éducation physique aussi.
Ben oui.
D'essayer des choses que tout le monde part un peu à zéro, même si tu as des aptitudes physiques.
En effet.
Ça motive le jeune à se dire, ben, je serai pas trop poche.
Ouais.
Personne connaissait ça avant ou a essayé ça avant.
Exactement. C'est important que nos jeunes bougent parce que c'est des saines habitudes de vie qu'ils acquièrent pour le reste de leur jour. Fait qu'après ça, ils vont devenir parents, ils vont être actifs. Ben, les jeunes vont être actifs. Puis c'est une roue positive, mm-hmm, qui tourne. Puis comme ça, ben, on arrête de dépenser des milliards dans le système de la santé. Fait que c'est pour ça qu'à mon avis, le réseau de sport étudiant du Québec et les directions d'école ont vraiment un questionnement à se poser. T'sais, moi, pas plus tard, j'en revenais pas plus tard que la semaine passée. Je parle à Elliot, mon plus vieux, qui me dit « Hey, pêche, coach, le flag football féminin à la polyvalente de Charlebourg. Hein, je dis, non, hot, good job. Viendrais-tu me chercher? Ben oui, je m'en viens te chercher, puis tout ça. » Il embarque dans l'auto, puis il dit « Hey, je vais avoir des décisions difficiles à prendre. Je peux juste en garder 12, puis il y en a 18 au camp d'entraînement.
Ah,
ben, je dis, pourquoi faites pas deux équipes? »
Puis?
Ben, il dit « Ouais, c'est passé le budget de l'école, pas assez de budget pour deux coachs, puis peut-être ça, toi. » Ouais, il n'y a pas un parent bénévole qui veut coacher comme on fait au hockey. Il n'y a pas quelque chose. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Là, j'ai pas de suite là-dessus, mais...
T'as amené la réflexion.
Ben, c'est parce que pour moi, ça faisait pas de sens.
Ouais.
Qu'il y ait 6 petites filles dans l'âge critique entre 15 à 17 ans qu'on leur dise « Ben non, t'es pas assez bonne, tu joueras pas. »
Puis c'est pas pour une histoire de compétition dans ce cas-ci? Ou
Ben oui, parce que ils vont sélectionner 12 meilleurs, fait que c'est 6 petites filles qui vont
non, mais je veux dire, s'ils gardent les deux équipes, là... Sont-ils capables d'en avoir une récréative puis une peut-être?
Ben, d'après moi, oui, ils seraient capables. Ça prend juste un petit peu de volonté des
ouais,
fois.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Ouais, des fois, je trouve que.
Mais j'avoue que leur dire non merci, c'est peut-être la dernière
fois. Ben, c'est parce qu'ils ont entre 15 et 17, fait que peut-être qu'ils vont dire bon, ben finalement, je suis trop poche pour faire de l'activité physique. Fait qu'ils vont commencer à être plus sédentaires. Puis là, ben, ils peuvent s'en suivre des problèmes d'isolation sociale, des problèmes de sédentarité, des problèmes de prise de poids. T'sais, c'est tout ça là, qui s'enclenche avec des fois un simple refus d'une équipe de flag football.
Manque d'estime aussi. Hey, au 89-71-102-1, quel sport vous a fait aimer bouger?
Ouais,
quelle pratique?
C'est vrai.
En solo, en gang, à l'éduc, mm-hmm, qu'est-ce qui vous a un démotivé, là, si jamais c'est votre cas? Puis qu'est-ce qui vous a un peu motivé à bouger?
C'est un bon point, ça. Ouais, écrivez-nous. 418-971-102-1, quel sport vous a motivé? Moi, j'en ai deux. Le hockey quand j'étais plus jeune, puis par la suite, c'est la course à pied. Je suis devenu fan
en
de
solo,
course à pied.
En solo, tu pars quand tu veux.
Exactement. Plus pratique dans mon horaire de père.
Ouais.
Donc, c'est la course à pied par la suite qui m'a gardé actif. Écrivez-nous ça. Toi, c'est le rugby. T'as-tu un autre sport?
Ben, jeune, là, le rugby.
Là, j'imagine qu'après ça, c'est l'ascension du Kilimanjaro.
Ben, ça, c'est sûr. Ça ne sera pas à chaque jour. Mais j'ai aimé ça, oui, bouger beaucoup.
Oh, oui.
Puis en fin de show, des fois, aller faire une rando, mm-hmm, tout ça. Mais c'est le dodgeball, moi, que j'ai découvert dans les dernières années.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Quand je suis tombée célibataire, j'étais comme, bon, je fais quoi dans mon horaire?
Beau
j'ai
sport
un
d'équipe,
peu trop de temps.
C'est fort.
Tripant, super belle ligue à Québec. Si vous en avez jamais fait, embarquez, mm-hmm, la ligue des gros ballons, c'est vraiment le fun.
Puis vois-tu, moi, je prends un troisième. Là. Maintenant, c'est l'entraînement physique en salle. J'ai mon petit groupe avec moi le soir de 5h30 à 6h30, on tripe au bout.
Tellement le fun. Puis sur les heures de bureau aussi, si vous n'avez pas de club sportif, si vous voulez intégrer ça, finalement, vous bougez une fois de plus par semaine.
Ouais.
Sur l'heure du lunch, avec votre gang, team building, puis vous pouvez juste vous amuser. Là.
Oui, d'ailleurs, chapeau à Sonia, notre directrice des ventes, et Val, qui est ma conjointe, qui ont parti le club sportif Lotler Communication. Les gens s'entraînent à chaque mercredi. On a beaucoup de réponses,
Pascal? Ben oui, 88-971-101, si vous voulez participer. La natation, c'était pas compétitif, probablement pour cette personne-là. Mais juste nager, c'était agréable. Après ça, j'avais d'autres textos.
Écoute, on a football ici. J'ai passé mon temps. Puis tu vois, c'est drôle parce qu'on dit football parce que même les gens avec une bonne corpulence peuvent jouer au football à différentes positions. C'est très bon. Le tennis, l'entraînement, la boxe. Tennis, c'est un sport que j'ai découvert aussi. Volleyball qui est très populaire encore dans les écoles.
Le pickleball, il n'est pas encore nommé, là, mais moi, je suis sûr qu'il y en a une couple qui ont découvert le plaisir de bouger avec ça.
Clair. Colosse, notre collègue qui nous dit la course automobile. Ouais, en effet.
Colosse. Je sais pourquoi méchant clin d'œil.
Le judo quand j'étais jeune. Ouais, je parlais avec une de mes amies que sa fille de 7 ans fait du taekwondo.
Hey, ça te replace un jeune qui est un peu tannant aussi.
Oui, exactement.
Mon neveu, je ne l'ai jamais vu écouter de même son coach de judo.
Puis vois-tu, sa fille de 7 ans, ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle est très cérébrale.
Okay.
Donc le taekwondo va super bien avec elle. Ça la fait bouger. Sa fille adore. Personnellement, moi, je préfère les sports en solitaire. Raquette, ski de fond, marche, randonnée.
Ouais.
Donc, tous des bons sports. Continuez à nous écrire au 418-971-102. On va en lire quelques-uns. Retour de la pause. On parle avec Rémi Villemur. On va revenir sur cette polémique-là du fameux documentaire Génération Trans qui a été annulé au cinéma Cartier. Richard Martineau en a fait sa chronique aujourd'hui dans le Journal de Québec. Donc, Rémi veut nous parler de ça. Puis, on va parler aussi, y a-t-il des bons et des mauvais souverainistes? Pourquoi les souverainistes sont fâchés qu'Alexandre Boulris dise qu'il est souverainiste quand il l'était en 1995 lors du référendum? C'est ça. T'es-tu bon, pas bon souverainiste? On aurait invité Max Larouche pour ça, il nous aurait tous décrit ça. C'est l'émission d'Angers dans quelques instants.